Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 20h passé de 4 minutes sur Transistor et vous nous excuserez pour ce léger retard lié à quelques petits soucis en régie purement indépendants de notre volonté. Non, la colère ne transparaît pas dans mes propos. Bref, l'amplifié, c'est parti. Toute l'équipe, ou presque, est réunie ce soir pour retrouver toute l'actualité et puis vous la présenter, mixer, égaliser, monter et bien sûr amplifier. Alors après un petit tour du côté des infos, nous sauterons la revue de presse cette semaine puisque Marie est quelque part à Milan plutôt que d'être dans ce studio, allez savoir pourquoi. Nous passerons par un petit décortiquage, nous passerons par un édito économique, puis nous prendrons rapidement les pieds dans un tapis ferroviaire cette semaine. Ensuite, il sera l'heure de passer à la culture avec Sarah et Léa. Puis après un petit passage par les sciences, par le sport, pardon, on en viendra aux sciences donc, et on se quittera sur une petite suggestion d'écoute, mais tout de suite il est 20h05 sur Transistor et c'est l'heure de retrouver le journal. Bonsoir Maë, bonsoir François-René.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Rémi.
Le Parti Socialiste se la joue Survivor. Ce soir, les quelques 102 000 militants.
Ça fait beaucoup pour le Parti Socialiste,
bah oui,
quand
c'est
même.
Ça, mince. Militants du parti se sont appelés à venir voter pour l'un des 4 textes d'orientation proposés. Ils éliront leur premier secrétaire le 29 mars.
Le pessimisme est latent parmi les militants qui ont du mal à envisager l'avenir du PS après le coup porté par les dernières élections présidentielles et le score historiquement bas enregistré par Benoît Hamon, lequel a d'ailleurs entre-temps quitté le parti.
Les 4 candidats, Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas et Emmanuel Morel, s'accrochent encore cependant. On s'interroge dans les coulisses sur le taux probable de participation à ces 2 votes, on cite du Lénine ou, comme le député Jérôme Lambert, on s'émeut de la situation version historien. J'ai l'impression de vivre le dernier congrès de la SFIO à la fin des années 1960. Ça s'est passé samedi soir à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes. Certains habitants des environs y font régulièrement des maraudes, à Montgenèvre donc, ainsi qu'au col de l'Échelle, pour venir en aide aux migrants qui tentent de passer la frontière. Rappelons-le, c'est l'hiver, on est à presque 2000 mètres d'altitude.
Samedi soir, donc, c'est une famille avec 2 jeunes enfants sur laquelle tombent 2 maraudeurs.
La mère, enceinte de 8 mois et demi, est frigorifiée et épuisée. Au vu de son état, il décide de la conduire à l'hôpital de Briançon. Juste avant l'entrée dans la ville, ils sont arrêtés par la police qui les retiennent alors et les soupçonne d'activité de passeurs. À l'arrière de la voiture, les contractions de la mère de famille s'accélèrent.
La police consent finalement à appeler les pompiers, lesquels mettent environ 1 heure à arriver puis à conduire leur patiente à l'hôpital.
Là, alors qu'elle accouche par césarienne, la police raccompagne son mari et ses 2 jeunes enfants en Italie. Ce n'est qu'au petit matin que l'hôpital finit par obtenir de la PAF, la police aux frontières, le rapatriement de la famille auprès de la mère et de son nouveau-né. Mardi s'est ouvert le procès de 8 militants d'extrême gauche. On les soupçonne d'avoir saboté en 2008 une ligne TGV. Pour rappel, l'affaire commence la nuit du vendredi 7 et 8 novembre 2008 quand plusieurs lignes TGV disjonctent, provoquant le retard de plus de 150 trains et bloquant près de 20 000 personnes dans les gares des cinémas. Les chiffres.
102 000, non. Quelques jours plus tard, une série d'interpellations a lieu, notamment à Tarnac, en Corrèze.
9 personnes sont alors mises en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Mais l'affaire traîne en longueur. Courant 2010 et 2012, l'enquête policière est remise en cause. La défense souligne des irrégularités et des procès-verbaux mensongers. La justice est saisie et effectivement de nombreuses zones d'ombre apparaissent. On apprend que les suspects étaient sous surveillance avant que l'affaire ne commence suite à des rassemblements anarchistes sur Paris et l'achat hautement révélateur de dissidence politique d'une ferme au fin fond de la Corrèze.
Les années qui suivent, 8 des 9 suspects seront renvoyés en correctionnel, mais on écarte cette fois-ci la qualification de terroriste.
C'est donc pour association de malfaiteurs que Julien Coupa, Yildune Lévy, Elsa Hawk, Bertrand Deveau ont commencé à être jugés ce mardi. Affaire à suivre.
Le président américain Donald Trump a examiné mardi 13 mars à San Diego les 8 prototypes différents du mur qu'il veut construire le long de la frontière avec le Mexique afin de freiner l'immigration clandestine. C'était, on s'en souvient, l'une de ses principales promesses de campagne et parmi les plus controversées.
« Je construirai un grand mur et croyez-moi, je construis les murs mieux que personne. »
better than ever. Malgré cette visite hautement symbolique, rien n'indique que le magnifique mur annoncé sorte de terre. Plus d'un an après son arrivée au pouvoir, le Congrès n'a pas débloqué le moindre budget pour une construction qui pourrait coûter jusqu'à 20 milliards de dollars, soit 16,2 milliards d'euros, et contre laquelle nombre d'élus démocrates sont vent debout. États-Unis toujours, qui ont annoncé jeudi 15 mars une série de sanctions contre la Russie pour son ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et pour plusieurs cyberattaques. 5 entités et 19 individus sont visés et sont désormais sanctionnés par un gel de leurs avoirs et par l'interdiction pour des sociétés américaines de faire des transactions avec elles. L'annonce de ces sanctions intervient alors que Londres, Paris, Berlin et Washington ont accusé Moscou d'être responsable de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia sur le sol britannique.
Et on termine justement par cette affaire d'empoisonnement qui fleure bon la guerre froide.
Oui, donc cet homme, Sergei Skripal, a exercé son métier comme agent double pour les services de renseignement britanniques durant les années 90 et au début des années 2000. En décembre 2004, il est arrêté par le service fédéral de sécurité de Russie. Il est jugé en 2006, reconnu coupable de haute trahison et condamné à 13 ans de prison. Mais il s'installe au Royaume-Uni en 2010 après un échange de prisonniers consenti par les Russes avec les Occidentaux. Le 4 mars dernier, Skripal et sa fille, qui étaient venus en visite de Moscou, ont été empoisonnés dans un restaurant italien avec sans doute du fentanyl, un opiacé 40 fois plus puissant que l'héroïne, qui peut provoquer la mort à raison de seulement 2 mg. Donc empoisonné à Londres, je précise. Depuis, il reste dans un état critique à l'hôpital du district de Salisbury. L'intoxication est classée comme une tentative de meurtre. Le 12 mars, la première ministre Theresa May juge très probable que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Skripal et de sa fille. Le Royaume-Uni a annoncé hier avoir rompu ses relations diplomatiques avec Moscou, d'où l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire.
Et on passe au sujet long.